1002, je dirais que ça se peut pas, là. Tu sais, des apparts en bas de 2000 à Toronto, d'après moi, c'est rare en joie le vert.
Je suis d'accord avec toi.
Hey, en 89, je payais une chambre 400 par mois. Fait que, une chambre, là. Pas rien. Une toilette commune, là. Tu sais, c'était pas parfait, là.
Tu faisais quoi, à Toronto?
T'avais sucir, ça. Tu savais pas, veux-tu te raconter ça?
Non, c'était une blague, c'était
pas. Ok. Pour nous diriger à la pause, et Nicolo l'a emmené tout à l'heure, sa sortie à minuit hier soir, un album donc que les Cowboys Fringants ont produit, réalisé au cours des derniers mois de vie de Carl Tremblay, qui de ça aussi a découlé la comédie musicale. Je dis comédie musicale, puis c'est pas une comédie.
Appelle ça quand même une comédie musicale.
OK. Donc, des Cowboys Fringants qui s'appellent Pub Royal. Donc, des tunes que vous allez entendre dans la comédie musicale, mais dont une qui, elle, s'intitule « La fin du show », écrite par Jean-François Posé, interprétée par Carl Tremblay lui-même. Ça raconte son parcours de vie. Vous allez peut-être être très touchés des paroles de la chanson qui, en quelques minutes, je sais pas comment ça dure de temps, là.
Sept minutes.
Ouais. Et je trouve qu'il parcourt bien sa carrière, puis des moments, ça nous... Tu sais, ça a pas dû toujours être... Tu sais, ils ont dû en faire des bars puis des petites salles. Puis ils ont connu une fin forte, mais ils en ont fait des petites places. Et c'est un peu ce qu'ils relatent. Donc voici ce qui a paru hier à minuit, les Cowboys Fringants et la fin du show.
As-tu deux minutes?
Commençons avec Al Boivin. C'est un nom que vous avez peut-être entendu dans les derniers mois. C'est qu'il est au cœur de ce conflit de trafic de stupéfiants un peu partout au Québec. Lui, principalement.
C'est celui que j'appelle Al, mettons, là.
Mais non, on se pose tout à fait la question. Al, c'est A-L-L, comme Al Boivin, mettons.
Pale Hill, mettons.
Non, pas A-L-E. A-L-L. All, comme All You Can Eat. All You Can Smoke. All You Can Sniff.
OK.
Dans le secteur de Saguenay. Et là, on le recherche de façon active là, depuis un bon bout de temps. Il est visé par plusieurs mandats d'arrestation à travers le pays. Il est devenu l'un des criminels les plus recherchés. On lui reproche des choses qui sont survenues depuis 2021 à Saguenay, à Québec, à Brossard, en Colombie-Britannique également. Et là, la Sûreté du Québec s'est associée à ce qu'on appelle le programme BOLO. On dit que c'est un outil de diffusion créé par... par le fondateur de Garda World. Et on dit que ça passe par tous les canaux de communication traditionnels, mais aussi les nouvelles technologies pour inciter plus rapidement et efficacement la population à ouvrir l'œil. Bon, précisément ce qu'ils font, je ne le sais pas exactement, mais ce que je sais, c'est qu'il y a 100 000 $ sur la table pour les infos menant à l'arrestation de Al Boivin. Évidemment, on ne vous incite pas à intervenir, on appelle plus la police, là, parce qu'il est un dangereux criminel, nous dit-on. Il serait associé à Dave Turmel. Donc,
c'est la nouvelle fierté du Saguenay.
C'est un gars qui œuvre à Saguenay. 6 pieds, 242 livres, 9-1 si vous le voyez, et pas d'intervention directe. La Banque du Canada aussi, qui, à la suite de la dernière, du dernier dévoilement du taux directeur là, qu'on a conservé à 5%, depuis quelques temps, on rend public les minutes de réunion qui ont précédé cette décision-là. Puis ce qu'on comprend, c'est que les économistes de la Banque du Canada n'étaient pas tous d'accord avec le fait de baisser, pas tous avec le fait de garder à 5%. Donc, on est un peu là-dedans. Là. La prochaine mise à jour, c'est le 5 juin, puis on comprend qu'il y a une possibilité que ça baisse éventuellement, mais c'est pas acquis.
Parce que les ralentissements se font sentir, mais dans des milieux très, très précis, comme l'habitation et l'automobile. C'est les deux endroits. Moi, je trouve que c'est deux secteurs où il y a un ralentissement quand même majeur dans la vente de maisons neuves. Et je ne sais pas, mais d'après moi, ça va être un record de plusieurs années du peu de maisons neuves en chantier cette année. J'ai hâte de voir, là, et je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais ça va être vraiment, vraiment à la baisse. Par contre, on voit encore des édifices en hauteur continuer de lever. En tout cas, à Lévis, il y en a beaucoup. À Québec aussi, il y a quand même plusieurs chantiers toujours en cours.
Au sport, Dan.
Il y avait 3 matchs Ligue nationale hier et je vous dirais que dans les 3 matchs, c'est des vétérans qui ont pris les choses en main. D'abord à Toronto, Brad Marchand a marqué 2 buts en plus de se faire complice d'un autre. Les Bruins ont défait les Leafs 4-2, sont donc en avant 2-1 dans la série. À Dallas, les Golden Knights mènent 2-0 parce qu'ils l'ont emporté hier 3-1. Le vétéran Jonathan Marchessault a fait un but une passe, tout comme Jack Eichel. Vegas est en avance 2-0 dans cette série. Et en fin de soirée, c'est Andy Kopitar, 36 ans, qui a tranché en prolongation. Il s'était fait complice des deux premiers buts d'Adrian Kempe plus tôt dans le match et il a aidé les Kings à surprendre les Oilers par 5 à 4.
J'ai une question pour toi.
Oui, monsieur.
C'est, il a marqué en prolongation.
Oui, au début
dans les séries. Ouais. Oui. C'est son, parce que tu nous as appris hier que 8 buts marqués en prolongation en série, c'était le nouveau record qui appartenait...
Non, pas un nouveau record. C'est un record qui existe. Ça appartient à Joe Sakic. Mais Carter Verhaeghe, lui, avait marqué son 5e.
C'était rendu à 5. OK. Oui. Hier, lui, Kopitar, il a augmenté. C'est lui qui a fait le record pour les Kings. Hier. C'était son quelième but en prolongation.
C'est une bonne question. Fait que c'est lui qui en a le plus dans l'histoire des Kings.
Oui.
Je dirais son 4e.
3.
3.
Fait okay. que c'est, tu sais, toi, tu m'en parlais hier, puis tu disais, hey, c'est vraiment pas beaucoup. On pense que, moi, j'ai toujours l'impression que Claude Lemieux en avait 22.
Ouais, ouais, je comprends. Ouais.
Fait que, mais c'est 3, le record chez les Kings.
Seulement 3. Pourtant, c'est une équipe qui est arrivée.
Oui. Tu sais, sont allés en finale de la Coupe Stanley. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Tu sais, ils ont quand même beaucoup de vécu dans les séries éliminatoires.
Oui, ils étaient là dans les années 70, là. Ouais. C'est pas un club d'expansion de 91.
C'est ça.
Exemple,
c'est ça. Fait que, 3, c'était le record. Comme c'est le nouveau record.
Comme quoi, marqué en prolongation.
C'est quelque chose.
En série, c'est exceptionnel.
Exact.
Hockey Junior 3, Montmagny a perdu hier au match numéro 6 présenté à Longueuil contre le Collège français. C'est la finale 4-7. Et il y aura donc un match numéro 7 présenté demain soir du côté de Montmagny. C'est le repêchage de la NFL à Détroit ce soir pour la première ronde. Les rondes 2-7 demain et samedi. Et au tennis... Ça se passait en après-midi du côté de Madrid, mais ce matin, pour nous, ça vient de se terminer. Le Québécois Félix Auger-Aliassime, 35e au classement mondial, a vaincu le Japonais Nishioka, qui est 78e. Il avait perdu la première manche, mais Félix a gagné les deux autres.
Good. Moins 2 actuellement sur Québec. Les 3 prochains jours, donc jeudi, vendredi, samedi, c'est plein soleil. 8 est le maximum. Pourtant, j'ai ouais, 8 maximum aujourd'hui. J'avais 7 tantôt. 12 maximum demain. Ce serait peut-être plus autour de 0 au réveil. Ça a bougé là au cours des dernières heures. Samedi, 8 degrés au réveil, 17 degrés en après-midi. Et peut-être de l'instabilité pour dimanche, là, mais allons-y avec ces 3 jours-là qui devraient être très, très ensoleillé et fort agréable.
As-tu 2 minutes? Ben, c'est ça.
Fait que là, du beau temps comme ça, on le prend avec plaisir. Dan, t'es aussi DG d'un club de golf au lac Saint-Joseph.
Oui.
Là, avez-vous décidé d'ouvrir, là?
Ah oui. Ben, on a hésité dans la dernière semaine avec la neige. On s'est dit, on va ouvrir ça juste à la fin juillet, mais finalement, on a changé d'idée.
Non mais comme hier, là, vous pouviez pas circuler sur le terrain, là.
Non, hier, c'était complexe. Les employés étaient là quand même.
OK.
Les employés étaient là quand même, mais c'était plus complexe hier pour les travaux extérieurs. Puis lundi, tu sais que c'était le déluge, là. Ben, hier aussi, il pleuvait beaucoup, là.
Ouais.
Puis on avait une corvée hier, tu sais. Je veux saluer. Il y a deux messieurs, j'avais envoyé un courriel aux membres, puis tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ça n'a pas d'allure d'envoyer des bénévoles sur le terrain avec la température qu'on avait hier. Il y a deux messieurs qui sont venus quand même. Quand on leur a dit, hey, la corvée, oubliez ça pour aujourd'hui, là. Désolé de vous être déplacés, on n'a pas pu vous rejoindre pour vous dire que c'était annulé, mais on va vous compenser, on va vous donner une carte cadeau. Non. Il dit, voyons. Il dit, on est habillés pour y aller, on va y aller.
OK.
On avait une petite corvée spéciale dans le champ de pratique hier, là.
OK.
Puis les deux messieurs sont allés. Je veux les saluer parce que c'était pas évident de travailler dehors hier. Mais la date d'ouverture, nous, on l'a décidé, je te dirais, il y a à peu près une dizaine de jours.
Okay.
C'est le surintendant, comme je t'expliquais la semaine dernière, Steph, qui a le dernier mot là-dedans. Son nom, c'est Claude Frenette, puis une très bonne réputation. Là. C'est un des meilleurs dans la région de Québec. Ça fait 34 ans qu'il est dans le domaine. On a statué que ça va être mardi prochain, le 30 avril, qu'on va ouvrir. C'est 12 jours plus tôt que l'année dernière. On avait ouvert le 11 mai.
Okay.
Donc, les gens qui sont membres vont pouvoir en profiter un peu plus rapidement. Puis c'est le fun, mais ça a été un drôle de 3 semaines. Hein. Tu sais, à la fin février, on pensait qu'à Québec, on jouerait au golf à Pâques.
C'est ça.
Puis là, un moment donné, on était ramené à l'ordre en se rappelant qu'on était au Québec. Puis là, ça a été bizarre. Puis il y a eu du froid. Ça n'a pas de bon sens quand
c'est
tu penses à ça.
Ouais.
On est sur le bord d'ouvrir une saison de golf, puis il neige. Puis il y a des terrains qui ont ouvert, mais qui ont dû fermer. Fait que tu sais, c'est pas tout le temps évident d'ouvrir trop tôt.
Mardi le 30, je veux jouer, là. Je peux-tu?
T'es-tu membre ou pas?
Je suis pas membre.
Pas grave, on va te prendre pareil.
Ah ouais? Okay.
On est très accueillants. Mais la grille horaire sur une application avec laquelle nos membres
OK, on n'appelle plus pour réserver un départ. Là.
On peut appeler. Okay, on peut très bien appeler. On a des employés qui sont là. Puis je vais avoir quelqu'un en boutique aujourd'hui à 11h au téléphone pour prendre les départs pour la semaine prochaine. Mais les membres sont habitués à fonctionner avec une application qui s'appelle GG Golf, qui est très bien faite. On leur donne voyons, numéro d'usager. J'avais username dans le cerveau, puis il n'y a rien qui sortait en français. Puis, ça, c'est le téléphone de la boutique.
Ça sonne déjà. Ouais.
Un mot de passe. Fait que les gens, à 11h ce matin, nous, on ouvre notre grille à 11h ce matin. Normalement, c'est 7h le matin, mais vu que c'est la première journée, on voulait être certain que tout était correct, là. Fait qu'à 11h ce matin, les gens qui sont membres vont pouvoir aller sur la plateforme GG Golf puis prendre leur départ à compter de mardi prochain. On donne 10 jours d'avance, nous. Ça varie d'un club à l'autre, Steph.
Okay.
Mais nous, on donne 10 jours d'avance à nos membres pour prendre leur départ. Puis les visiteurs, c'est 6 jours avant.
Donc, OK.
Il y a des gens qui...
Donc, à 11h le matin, c'est pas les visiteurs, c'est les membres, là.
Ben, c'est les membres, mais... Tu sais, pour mardi prochain, on est dans le 6 jours.
Ah, OK, OK.
Fait que quelqu'un est visiteur, qui voudrait appeler à la boutique pour prendre un départ, il va pouvoir. Alors que normalement, quand lui appelle, les membres ont déjà pigé dans le plat de bonbons pour prendre leur départ parce qu'eux autres avaient 10 jours.
Est-ce que c'est-tu très achalandé en début de saison?
Non.
OK.
Jouer avec
des gants, c'est pas parfait tout le temps.
Non, puis je vais être honnête, les gens qui ont à prendre des congés de leur travail ou à profiter d'une journée de golf, ils attendent plus au mois de juin, juillet, août, puis souvent septembre, parce que c'est tellement beau au mois de septembre maintenant qu'il se prend plus de congés.
Ah, c'est plus le fun, c'est vrai.
Puis c'est pour ça que nous, dans les prochains jours, on va avoir une tarification de début de saison.
Vous autres, avez-vous ça, les marmottes qui volent les balles sur le terrain? Puis ça arrive souvent que je frappe en plein milieu, là.
Ouais.
Puis je retrouve pas ma balle parce que la marmotte, elle l'a pris.
Non.
Ça fait pas ça, vous autres?
C'est plutôt rare. Même là où tu joues, je suis pas certain que c'est ça qui est arrivé. Mais nous, on n'a pas cette situation-là.
Des marmottes mangeuses de balles de golf, tu en connais pas?
Non.
Va t'en présenter une.
Ouais.
Merci, Dan. On s'arrête quelques instants. Bougez pas.
Dupont. C'est une légende.
Légende.
Dupont. C'est un raconteur.
Raconteur.
Dupont le matin. Avec Stéphane Dupont. Hey Dupont. Bon matin Dupont. Dupont le matin. Avec Stéphane Dupont.
Il y a des émissions comme ça qui marquent l'imaginaire. Je vous en ai parlé régulièrement. Puis c'est drôle parce que dans ce segment d'émission-là, vous savez, chaque jour, hier, moi, je découvrais une nouvelle invitée que j'avais jamais rencontrée. Mais aujourd'hui, on s'en va complètement ailleurs parce que je suis un fan de l'émission. J'avais eu la chance de le dire à l'animateur et sa conjointe. Et là, aujourd'hui, on va aller à une autre étape parce que c'est la reprise le 29 avril prochain. C'est la reprise, ou la suite, si on veut, de Si on s'aimait encore, saison 2, qui va prendre son envol. Elle est experte et en accompagnement relationnel dans cette émission-là. Il y a beaucoup de couples qui doivent avoir plusieurs discussions suite à la présentation des émissions. On va la rejoindre tout de suite. Madame Louise Sigouin. Madame Sigouin, bonjour.
Bonjour, Stéphane.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Ça va très, 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 très bien. Vous savez que il y a des fois, il y a des situations où on écoute l'émission, on vous écoute dans l'accompagnement que vous faites avec les couples, surtout dans cet épisode-là ou cette saison-là, où si on s'aimait encore, c'est des gens qui n'ont pas trouve à se découvrir, mais qui se découvrent, qui se connaissent depuis longtemps, mais qui vivent des problèmes. Et c'est là que vous amenez beaucoup de questionnements, puis vous essayez d'ébranler un peu tout le monde pour que ils se regardent dans le miroir, en fin de compte, puis ça se transforme souvent dans les maisons des gens qui écoutent ça. Vous le réalisez, ça, au moment de l'émission, là?
Ben oui, avec grand bonheur. C'était un peu mon souhait que ça ait ces répercussions-là pour que ça puisse toucher le plus de monde possible. Puis grâce à toute l'ouverture de cœur des participants et leur authenticité, ben c'est ça qui nous permet de chacun d'entre nous se relier puis s'identifier à travers chacun des enjeux. Puis effectivement, les couples avec Si on se met encore, c'est des couples matures qui ont des enjeux importants puis sont souvent en crise. Fait que c'est sûr qu'on peut s'identifier quelque part là, dans chacune des étapes du processus.
Mais des fois, dans la façon de faire, puis ça, c'est l'humain qui est comme ça, on va aller prendre juste des portions qui fait notre affaire, puis ce qui fait que ça nous rend peut-être vulnérables ou celui qui cause le problème, ben ça, on prendra pas ces segments-là. T'sais, des fois, c'est peut-être, vu que l'accompagnement n'est pas direct, mais indirect par l'émission, des fois, ça peut jouer des tours à certains.
Oui, mais en même temps, c'est comme aussi très divertissant si on s'aimait encore. Fait qu'on l'écoute un peu de façon nonchalante, puis ça déjoue le rationnel parce que on l'écoute un peu avec un regard extérieur. Mais si on est attentif, je pense qu'on peut être touchés par ce qui se passe, sans trop comprendre ce qui nous arrive. Mais si on porte une attention dans ce regard intérieur-là, on peut être capable de dire, coudonc, ça me ressemble un peu finalement. ou ça me fait vivre ou rappeler quelque chose que j'ai déjà vécu.
Est-ce que, après Si on s'aimait, et maintenant la deuxième saison de Si on s'aimait encore, vous êtes content des résultats, non pas de code d'écoute, mais des couples que vous avez accompagnés, des couples que vous avez formés, si on veut, du résultat que ça a donné à plus à moyen ou à long terme?
Mais je suis très contente parce que les gens sont d'abord motivés par faire la démarche, que ce soit si on s'aimait ou si on s'aimait encore. Fait que cette volonté-là de s'améliorer puis de comprendre un peu d'où on vient dans nos relations puis éviter de répéter les mêmes erreurs, c'est sûr que ça me touche. C'est comme si ce souci-là d'être mieux en relation. Puis on se le cachera pas, l'amour, ça touche tout le monde. Et le courage de chacun aussi, ça vient nous interpeller. Fait que dans ce sens-là, indépendamment de du résultat de la relation, chaque individu est parti avec un enseignement, un apprentissage qu'il va pouvoir appliquer dans d'autres relations.
Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que vous abandonnez rarement. Puis en 2024, il y a des gens qui sont en couple, puis ils chicanent sur le toaster qui est pas à la bonne place, puis ils se laissent, là, ça va aussi vite que ça. Vous abandonnez... Moi, je me souviens, il y a des émissions, là, je sais pas si on s'aimait ou si on s'aimait encore, mais après deux émissions, je dis non, ça marchera pas ces deux-là, là, arrête ça tout de suite. Là. Mais vous abandonnez jamais.
Mais surtout avec Si on s'aimait encore, parce que tu sais, c'est une démarche qui se fait à deux, donc ça veut dire deux individus qui ont choisi consciemment de s'engager. Puis moi, je me dis, s'il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de violence, puis qu'on a deux personnes engagées qui souhaitent renouer, ben moi, je fais partie du processus, puis tu sais, je crois en l'amour, c'est la base de du travail que je fais. Fait à partir de là, pour moi, tout est possible dans la mesure où tout le monde y met du sien puis que on a un intérêt. Fait que avant que j'abandonne, c'est vrai. Je pense qu'ils vont lâcher la serviette avant moi.
Oui, parce que mais pourtant, il y en a pour qui deux personnes seraient beaucoup plus heureux dans la vie s'ils n'étaient pas ensemble. Puis vous semblez jamais prendre ce chemin-là.
Non, parce qu'en même temps, le processus d'aller au bout. Parce que souvent, les gens, ils vont se retirer de la relation, mais ils restent avec un doute, avec une certaine confusion, avec un questionnement, puis ils disent. Et si j'avais cherché de l'aide, si j'avais fait autrement, fait qu'en les accompagnant dans le processus, si on arrive à une finalité où tout le monde se retire, ben ils vont avoir la certitude qu'ils ont mis tous les efforts nécessaires pour envisager la possibilité, puis ils vont partir en paix pour pouvoir poursuivre chacun de leur côté leur cheminement relationnel.
Je joue au thérapeute très souvent, mais je suis mauvais en joie le vert. Fait que mais ça c'est pas grave. Est-ce que, là, je veux que vous m'aidiez à me guider, encore une fois, à me former.
Ouais.
Est-ce que un couple qui a 4 ans de vie commune et l'autre en a 18, par exemple, donc il y a quand même un écart entre les deux, là, est-ce que, dans le processus de règlement de leurs problèmes, c'est pareil, même si c'est pas les mêmes problèmes, mais donc, le nombre d'années qui sont en couple, est-ce que ça a un impact sur la façon d'essayer de trouver une solution?
C'est le même travail. C'est juste que souvent, quand c'est un jeune couple, il arrive avec des blessures. C'est souvent des couples, des nouveaux couples. Fait que c'est sûr qu'ils ont mis en place des besoins clairs qu'ils veulent, sont moins faciles à négocier dans le sens qu'ils veulent plus se perdre, ils veulent plus échanger des inconforts pour un autre. Mais c'est le même processus parce qu'on a des individus qui veulent sortir de ces malaises-là puis ils veulent rester ensemble. Tu sais, peut-être qu'à 18 ans, ben les risques sont plus grands, il y a plus d'habitude, il y a plus d'acquis, il y a plus de choses à perdre, mais c'est la même volonté de se rétablir.
Pourquoi être en couple, ce n'est pas comme le hockey? Tu sais, au hockey, là, au hockey, quand t'es blessé, tu joues pas. Faut que tu sois complètement guéri pour revenir au jeu.
Okay.
Puis là, vous l'avez dit, puis vous le dites souvent, il y a des blessures du passé non guéries qui refont surface. Baptême, guérissez-vous, puis vous viendrez jouer après.
Ah, mais c'est le fun de jouer, Stéphane.
C'est ça.
C'est une très bonne réflexion, mais j'ai comme croyance que c'est en relation qu'on apprend à être en relation. Parce qu'on est tous des êtres très intelligents, sensés et sensibles. On peut lire, on peut expérimenter un paquet d'affaires, mais c'est quand vient le moment de communiquer, d'exprimer ses besoins, de dire ses inconforts. C'est vraiment dans le concret de la relation qu'on apprend. Fait qu'on guérit dans l'expérience de la relation. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Parce que si on attendait d'être guéri définitivement, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de célibat qu'il y en a déjà.
Donc, si je vous suis bien, plus je vais avoir eu de relations dans la vie, meilleur je vais être quand je vais arriver à la bonne.
À condition que je répète pas les mêmes erreurs. Si je répète toujours les mêmes patterns, je me retrouve toujours dans les mêmes enjeux, ben c'est comme de faire du surplace. Mais si je prends le temps de faire une introspection, de regarder ce que j'ai vécu comme expérience, puis de réorienter un peu mes priorités puis ce que je souhaite, ben je pense qu'on apprend, effectivement.
On a parlé de l'âge ou de la durée des couples, voir si ça avait de l'impact. On dit que non. Est-ce que l'âge des gens dans le couple, ça peut avoir un... Tu sais, la mentalité, par exemple, d'un couple de deux personnes qui arrivent à la cinquantaine, puis que vous avez un autre couple qui est dans le début de la trentaine, peu importe la durée de temps qu'ils sont ensemble, ils ont quand même des vies différentes et des valeurs des fois différentes. Est-ce que ça, c'est dur de dealer avec ça?
Non, c'est pas difficile, mais effectivement, à chaque groupe d'âge a son enjeu. Souvent, quand on est plus jeune, on se dit, bah, coudonc, si ça fonctionne pas dans cette relation-là, ça fonctionnera ailleurs. On a cette espèce d'espoir sans fin. Alors qu'en vieillissant, je pense qu'on comprend qu'on est deux êtres différents, puis on est plus en mesure de s'accepter dans nos différences, puis de conjuguer avec ça sans justement faire un gros cas avec le toaster qui est pas à bonne place, comme on disait tantôt.
Est-ce que vous sentez de la peur de la rupture? Des gens que vous avez dans l'émission, là, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que je vais faire tout ça? T'sais, ils sentent qu'ils sont pas bien, mais la peur de la rupture, ça, est-ce que vous sentez ça des fois?
Oui. Souvent, les gens vont tolérer des relations, vont faire avec un paquet d'inconfort par peur d'être seul, mais ça fait partie du processus, parce que moi, je crois beaucoup à l'autonomie affective, c'est-à-dire que je crois que c'est plus viable d'être deux personnes autonomes affectivement qui sont capables de prendre soin chacun de son jeu pour faire un nous en santé. Fait que oui, il est possible que des gens qui restent en relation par peur, mais en même temps, c'est pas une relation satisfaisante. Fait qu'on va les accompagner pour qu'ils développent une capacité, une maturité d'être en relation sans vivre toujours avec cette peur de perdre. Peur de perdre à tout point de vue dans nos vies, c'est jamais confortable.
Karen va nous partager ses problèmes.
Mais non, en fait, mais Madame Citoyen, comment on fait pour prendre soin de ce jeu-là?
Ben, il faut d'abord, c'est accepter que le nous, c'est un espace où le jeu évolue, mais c'est comme d'apprendre à se connaître. Ça a l'air tellement basique puis banal comme départ, mais c'est qu'est-ce que j'aime, moi? Ça se peut que la personne avec qui je partage ma vie ait des choix différents, mais c'est pas incompatible. On a tendance à vouloir jumeler nos préférences, nos activités, au lieu de toujours se mettre en position de, ben, peut-être que cette personne-là aime pas mes pratiques sportives, mes occupations, mes temps libres, mais je peux l'inviter dans mon univers. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes qualités? C'est quoi mes forces, mes difficultés, mes défis? Puis c'est ça qui est le fun, de pouvoir se présenter à l'autre puis s'aider mutuellement dans l'espace du nous, qui est un espace qui devrait être sécuritaire, à devenir une meilleure personne. Si je prends soin de moi, je prends forcément soin de la relation.
Est-ce que les femmes ont plus de difficultés à prendre soin d'elles, à savoir ce qu'elles aiment versus les hommes?
Je pourrais pas me positionner, mais le réflexe tend à changer. Mais pendant des années, les femmes avaient plus le réflexe de demander de l'aide, avaient plus facilement la capacité de dire « j'irai me chercher un peu de support », alors que dans les dernières années, c'est vraiment toute identité genre confondue, où les gens, et c'est le bienfait que, si on s'aimait, me permet de constater que les gens ont envie d'évoluer, puis ont envie d'être une meilleure personne, puis d'apprendre à se connaître, mais ça dépend du tempérament. C'est sûr, dans mon approche, les codépendants, qui sont toujours centrés sur les besoins des autres, mais ils se rendent compte tard à quel point ils ont oublié d'apprendre à se connaître eux-mêmes en chemin. Donc, ça dépend beaucoup des tempéraments plus que du sexe de l'individu.
Moi, dans les prochaines semaines, ça va faire 9 ans que je suis en couple, et on habite chacun chez nous. Je sais pas, nous c'est pas la solution parce qu'on vivait pas de problème particulier, mais moi c'est dans une situation dans laquelle je suis très confortable, je pense que ma blonde aussi. Est-ce que vous, tu sais, puis je sais qu'il y a bien du monde qui vont juger ça, c'est bien épouvantable, mais on est très bien dans ça, et j'ai l'impression que je suis plus tout seul à faire ça.
Vous avez entièrement raison, c'est une pratique de plus en plus courante pour toutes sortes de raisons, comme la vôtre qui s'est installée simplement, mais aussi avec les enfants, les gardes partagées. Souvent, les gens préfèrent garder cet univers-là pour comme les responsabilités familiales, parentales et sociales. Puis, quand on vit dans des maisons séparées, ben le bien-être, c'est que on se revoit toujours avec une espèce de fébrilité parce qu'on n'est plus dans les soucis du quotidien, de la routine. Fait que ça a des bons côtés, mais c'est de plus en plus populaire.
Puis, une des raisons, moi, je me souviens à l'époque, on en avait parlé, puis c'était aussi dans nos enfants respectifs, en ne voulant pas créer d'impact supplémentaire à la séparation à nos enfants qui sont là. Tu sais, déjà qu'ils payent le prix d'une séparation d'une certaine façon, ça dépend comment tu vas gérer ça, mais le fait de déménager, d'échanger d'école, d'échanger de groupe d'amis, de changer de chambre, de maison, ça peut être quelque chose qui a un impact aussi négatif, peut-être positif dans certains cas, mais négatif généralement. Ça, c'est respecter les enfants qui n'ont pas choisi, eux, de changer de famille, là.
Oui, puis ça permet une stabilité pour tout le monde, pour les enfants, mais pour les adultes concernés aussi. Fait que cette stabilité-là, tu sais, plus on a un environnement dans les autres domaines de notre vie qui est serein, mais plus ça nous rend aptes et disponibles à vivre une relation amoureuse plus intime. Fait que ça, il y a beaucoup de positifs là-dedans.
Fait que là, si vous cherchez un couple pour animer ça avec vous, je vais m'asseoir sur un lit, manger des chips en commentant ce que j'entends. Ça me ferait tellement plaisir.
Ce serait bon en plus.
Ça serait drôle. Je voyais tout à l'heure, puis je termine avec ça. Je trouve ça vraiment dommage, puis j'aimerais ça trouver une solution. Je vois que, tu sais, là, votre titre, vous êtes experte en accompagnement relationnel. Pourquoi vous n'avez pas le droit d'utiliser vos diplômes acquis de sexologue, puis ça peut, il y en a d'autres, c'est des psychothérapeutes qui veulent pas suivre l'ordre mis en place, que on vous enlève vos titres?
Effectivement, le titre appartient et possible d'être utilisé seulement et seulement si on fait partie d'un nom professionnel. Mais ceci étant dit, ça n'enlève pas mes 30 années d'expérience. Puis à ce compte-là, je suis très en paix avec cette décision-là.
Ben absolument. Puis ça vous enlève pas votre formation. Vous avez parlé de l'expérience.
Absolument.
Je trouve ça épouvantable que, tu sais, puis je le vois, il y en a d'autres. Vous êtes pas la seule. Aussitôt qu'on sort un peu des sentiers battus, ben l'ordre vous jette à la rue. C'est un peu ridicule.
Ouais, mais c'est une façon aussi d'encadrer la profession puis de protéger le public que je pense qu'il est important de respecter. Mais à cette étape-ci de ma carrière, je suis très en paix avec ce nouveau titre-là parce que c'est plus mon expérience que je porte avec laquelle je travaille que le titre qui me définit.
Faites-vous encore des gens dans votre bureau?
Absolument. J'ai un bel équilibre entre ma vie publique qui était tout un virage dans ma vie, mais mon ancrage, c'est vraiment ma pratique privée sur une base régulière. Semaine après semaine.
Mais vous devez avoir des années d'attente pour vous rencontrer?
Ah, j'en ai plus de les attentes. Je ne prends plus nos clients depuis longtemps. Puis c'est le roulement de tous ces clients-là qui viennent et qui repartent dans toutes sortes d'étapes de leur vie depuis les 30 dernières années qui assurent mon quotidien.
Mais Madame Sigouin, est-ce qu'un couple qui va bien devrait déjà consulter plutôt que d'attendre quand ça va mal?
Il y en a plusieurs qui ont ce réflexe-là de venir présenter leur pattern, leur piège possible. Fait que si la personne sent le besoin, l'avantage, c'est qu'on n'arrive pas en crise. C'est toujours plus confortable d'aller chez le dentiste en prévention qu'en urgence avec un traitement de canal. C'est un peu la même affaire. Dans le sens que s'ils viennent en prévention, ils identifient le pattern puis s'engagent tous les deux à éviter ces pièges-là, ça peut être le fun aussi de le voir comme quelque chose de préventif. Puis on va le voir au cours des saisons, si on s'aimait encore, qu'il y a des gens qui c'est beaucoup par prévention, ils ne sont pas nécessairement en crise, mais qui ont vraiment envie d'avoir une longue vie relationnelle puis mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que ce soit confortable.
Est-ce qu'on pourrait appliquer la même réponse à si je vous demandais, quand on est seul, pour une personne seule, de consulter quand il n'y a pas de problème majeur, c'est aussi essentiel?
Oui, parce que quand on est célibataire, aussi on a des mauvais plis, des patterns qui s'installent, qui fait que, tu sais, on a toujours, par exemple, on s'attire toujours des gens qui sont pas disponibles ou on s'attire toujours des gens qui sont très, très occupés dans d'autres domaines qui rendent la relation des... Fait que juste de l'identifier, ça ne peut nous aider fortement à faire des choix différents. Puis si je fais des choix différents, ben je risque d'avoir des résultats. Mais des nouveaux résultats.
Comment on explique? Parce que j'entends ça hier chez la coiffeuse. J'attire juste des gars en couple.
C'est
vrai? Oui, les gars qui viennent me voir, qui viennent me parler, qui me croisent, sont juste en couple. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont attirer ce genre de personnes-là?
C'est ça qu'il faut identifier. Il y a mille et une façons de l'expliquer, mais c'est comme si la personne a un pattern d'attirer des gens qui sont pas disponibles. Pas disponibles parce qu'il est marié, pas disponible parce qu'il vit à l'étranger, pas disponible parce qu'il travaille toujours. Donc, c'est ce pattern-là qu'il faut briser pour être capable d'avoir une relation satisfaisante. Puis à l'inverse, souvent ces gens-là, si on leur présente des gens qui sont très disponibles, il y a quelque chose d'ennuyant qui éveille rien. Puis c'est ça qu'il faut installer comme changement pour faire des choix différents.
Alors, Mme Sigouin, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous.
Mon Dieu, merci à vous. Vous êtes full intéressé, animé, curieux. C'est un pur bonheur.
Si vous saviez, combien, des fois, le lendemain d'une émission, je vais reprendre certaines situations précises, par contre, là, très ciblées en disant, voici quelque chose qu'on voit souvent dans plusieurs couples et voici la réponse. Puis, on va essayer de voir parce que les problèmes relationnels, je veux dire, ils sont pas en diminution, là. C'est comme les taxes.
Absolument.
Il y en a toujours un nouveau qui arrive quelque part.
Oui, vous allez pouvoir avoir et honorer tout le beau courage des participants. Chaque fois, je le dis, je le répète constamment, mais vous allez voir, ils sont extrêmement généreux et on va pouvoir tous les accompagner dans leur cheminement. Ça va être une belle aventure.
On sera là dès le 29 avril. Parfait. Pour la première.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir. Louise Sigouin, elle est experte en accompagnement relationnel. Nico, elle s'est adressée à toi, mais t'as pas osé parler.
Oui,
c'est dommage.
Au début, elle s'est adressée à moi. Elle a dit, les gens qui cumulent beaucoup de relations deviennent des experts.
Oui. Et surtout qu'elle développe des patterns.
Qu'il faut étudier.
Oui,
et approfondir.
C'est ça.
Ça, c'est selon
et qui se mettent des barrières.
Combien de relations?
208.
Oh, c'est... Ça garde les gens occupés?
J'ai jamais fait le compte.
Non? On fait tout seul là?
T'as pas ça, toi? Finis agenda?
Ça commence...
Excuse-moi, Nico, excuse deux secondes.
Mais j'ai pas de nom pour ça, pour vous autres, les gars. Les filles, nous autres,
parce qu'on
n'en
fait pas.
Mais t'es pas obligé d'en inventer un bizarre, Karen. Déjà qu'on est marqué encore de celui de la semaine dernière, là, on est
le
encore...
Le vagenda, là.
Ouais, on est encore un peu troublé. Okay. Fais attention à nous, là.
Oui.
Fais penser pendant la pause.
C'est un peine agenda.
OK. Déjà, je vois ton effort.
À partir de combien?
Oui, Nico.
À partir de combien on a un vagenda?
Non, à partir de combien de temps on compte ça comme une relation?
2 heures.
Tu vas me battre.
Je sais pas compter.
Hey, mais c'est une bonne question, ça. Au moment où tu présentes la personne à tes amis, une couple de mois,
on s'entend-tu pour une couple de mois?
Une relation?
Ben, moi, je pense que quand tu la présentes à tes proches.
2-3 mois.
Ouais, mettons.
Puis ça reste 2-3 semaines.
Ça, des fois, ça
dépend. C'est long, des mois, là. Moi aussi, je pense que tu es en relation en quelques semaines.
Tu sais, des fois, ça peut être 2 semaines, mais tu vois tout de suite que ça marche pas, là.
Mais si tu présentes avant ça à ta famille ou à tes parents, je pense que ta relation est officielle avant 2-3 semaines.
C'est ça.
Si tu présentes à tes parents avant 2-3 semaines,
ça va vite.
Run.
Ah oui, ça va. On s'entend. Ça va vite. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas de temps à perdre, Nico.
Mais des fois, c'est tu la présentes à tes parents, t'as pas le choix à travailler avec, mettons.
Ou encore, ben, c'est tu restes chez eux.
C'est ça que je voulais dire à Karen.
Ah oui, c'est ça. Elle se lève. Puis
elle vient chercher le loyer.
Ah oui, il y a un chum qui est... J'avais hébergé un de mes chums comme ça qui...
C'est qui?
Je le dis pas. Ah. Hey. Mm. Puis c'était par les souliers que je savais qu'il y avait jamais la même. Tu sais, j'ai dit, bien beau, une fille qui a des souliers différents, mais elle n'est pas rendue à 300 paires en 4 jours. Là. Okay. Fait que...
C'est dans ta famille immédiate?
Non, c'était pas dans ma famille.
Okay.
Du tout.
Un gland agenda, c'est pas bon, hein?
J'ai mis ça, moi.
Il n'y a pas beaucoup de mots qui vont finir bon, là.
Non!
OK. Vous êtes dans du pour le matin.